France Culture, bienvenue, il est midi et demi. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Seule la Grande-Bretagne peut sortir de l'impasse où elle se trouve. Déclaration ce matin du négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, au lendemain du deuxième rejet par la Chambre des communes de l'accord de sortie de l'UE négocié par la première ministre Theresa May.
Le constructeur automobile Volkswagen a revu fortement à la hausse ce matin son objectif de vente de voitures électriques.
Et un tournant majeur, mais au détriment de l'emploi. La marque phare du groupe allemand prévoit en effet entre 5000 et 7000 suppressions de postes d'ici 2023.
Dans votre journal également, le gouverneur de Californie doit annoncer aujourd'hui un moratoire sur les exécutions.
Moratoire qui bénéficiera aux quelques 737 détenus dans le couloir de la mort de cet État qui compte le plus grand contingent de condamnés à la peine capitale des États-Unis. L'invité de la rédaction dans moins d'une demi-heure, Omar Belouchet, directeur du quotidien algérien Le Watan. Avec lui, nous reviendrons bien entendu sur les derniers événements depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se présenter un cinquième mandat.
L'actualité en France à présent, où la tête de liste du Parti communiste aux prochaines élections européennes ne décolère pas.
Oui, Yann Brossat n'a pas été convié au débat qu'organisera notamment le service public au début du mois prochain. Il dénonce une anomalie démocratique. Enfin, les Français lisent toujours autant et aimeraient même lire davantage selon l'étude biannuelle du Centre National du Livre publié aujourd'hui. Étude qui pointe par ailleurs des évolutions sur le marché du livre. Et puis, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Si nous fabriquons le numérique nous fabrique aussi. Comprendre, saisir, maîtriser les enjeux du numérique aujourd'hui pour ne pas se laisser déposséder, pour ne pas subir. C'est l'enjeu du nouvel essai très pédagogique de notre invité Dominique Cardon qui sera avec nous à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Ni les derniers avenants au contrat de divorce obtenu la veille, pas plus que la dramaturgie omniprésente hier dans l'enceinte de la Chambre des communes n'y auront changé quoi que ce soit après quelques secondes de silence suivies des murmures de l'Assemblée, sans oublier la gorge particulièrement enrouée de la Première ministre que d'aucuns n'auront pas manqué d'interpréter aussitôt comme le symbole d'un pays aujourd'hui sans voix. Les députés britanniques ont donc une nouvelle fois rejeté hier soir l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles. Et désormais que celui-ci appartient définitivement au passé, une seule question demeure, et maintenant, si comme on s'y attend les députés appelés à se prononcer encore aujourd'hui rejettent la perspective d'un no deal, un troisième vote aura lieu demain sur un report court et limité de la date du Brexit. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Pour commencer peut-être, Antoine, pouvez-vous nous décrire comment se réveille aujourd'hui le Royaume-Uni, alors même qu'il y a quelques heures à peine, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, lui-même prévenait dans des mots ne souffrant aucune espèce d'ambiguïté, le pays a épuisé sa dernière chance.
Oui, l'image que j'ai envie de vous montrer, c'est la foule rassemblée au pied du Parlement. Malgré la pluie, il y a depuis des semaines des militants pro et anti-Brexit qui manifestent, mais leurs slogans sont ce matin plus radicaux que jamais. Les anti-Brexit qui brandissaient ces derniers temps des licornes pour se moquer du Brexit idéal que voulait obtenir le gouvernement. Gouvernement ont aujourd'hui des panneaux sur lesquels ils ont écrit ces mots « Il faut arrêter ce foutoir ». Et ce n'est pas plus brillant chez les eurosceptiques, ils tirent à vue sur le gouvernement. « Nous, les Brexiteurs, nous étions des rebelles », écrit Julie Burchill ce matin dans le Télégraphe. Mais la sortie de l'Union européenne a été prise en main par un groupe de petits tyrans médiocres qui méprisent les vieux, qui méprisent les ouvriers et qui méprisent la démocratie. Inquiétude enfin du côté du patronat, Caroline Fairbairn, la présidente de CBI, la principale organisation patronale, le dit, nous sommes totalement arrivés au bord de la falaise. Il faut qu'on écarte la possibilité, dit-elle, d'une sortie sans accord, parce que les entrepreneurs n'arrivent plus à gérer l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Il nous faut, dit-elle, un report du Brexit, c'est absolument évident. Il ne nous reste que 15 jours avant le 29 mars. À chaque semaine de plus qui passe, les entreprises dépensent de l'argent pour stocker des marchandises dans des entrepôts. L'incertitude a un coût terrible. Il faut qu'on change d'approche. Et elle conclut, trop, c'est trop.
Alors à présent, quel scénario peut-on envisager pour la suite? Antoine, on évoque déjà un délai de 6 mois supplémentaires. Certains, on le sait, plaident pour un nouveau référendum. Et puis la question se pose également de possibles élections générales anticipées.
Ah oui, ces élections, ce sont surtout les travaillistes qui les réclament. Jeremy Corbyn, le chef de file du Labour, a un intérêt immédiat. Il pourrait devenir Premier ministre, mais pour l'instant, c'est surtout sur les deux votes d'aujourd'hui et de demain que les esprits se focalisent. Les députés doivent dire cet après-midi s'ils écartent définitivement une sortie sans accord. Ils doivent voter demain pour ou contre ce report dont vous parlez. Mais dans l'intervalle, le gouvernement peut encore exploser, car une douzaine de ministres eurosceptiques menacent désormais de démissionner si on ne les laisse pas voter ce qu'on appelle l'amendement Malthouse. L'idée, c'est de prolonger l'article 50 jusqu'au 22 mai et de payer la facture du divorce du Brexit en échange d'une période de transition qui durerait jusqu'au mois de décembre 2021. Évidemment, l'Europe n'a pas dit son mot, n'a pas donné son avis sur l'idée pour le moment, mais ce qui est en train de se jouer, c'est ce qui aurait dû se passer en septembre 2016, au moment où Theresa May a réuni son équipe pour trancher entre les pros et les anti-Brexit. Nous en sommes toujours là, 2 ans et demi plus tard.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres, et pardon donc pour cette liaison téléphonique légèrement capricieuse. Parce que depuis sa création, l'Internet a nourri les plus grands espoirs de liberté. Nombreux sont aujourd'hui les États autoritaires à vouloir restreindre par tous les moyens la liberté du web. Et c'est ainsi qu'en Russie, par exemple, un projet de loi controversé doit être adopté. Aujourd'hui, projet destiné à isoler l'Internet russe des serveurs étrangers et ainsi permettre aux autorités de filtrer l'accès à l'information des Russes. Le mastodonte allemand Volkswagen, lequel commençait tout juste à relever la tête du scandale du Dieselgate, a annoncé ce matin son intention de supprimer entre 5000 et 7000 emplois d'ici 2023, une cure d'austérité visant à financer la transition onéreuse du premier groupe automobile mondial vers la voiture électrique et autonome. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors ce matin, le directeur opérationnel de la marque s'est justifié en déclarant qu'il s'agissait, je cite, de mettre Volkswagen en ordre de marche en vue de l'ère électrique et numérique, ou quand la fin d'un modèle, Ludovic, semble nécessairement aujourd'hui devoir s'accompagner d'une casse sociale.
Fabriquer un véhicule électrique, Thomas demande un tiers d'efforts et de dépenses en moins que son équivalent thermique. L'affirmation est signée du patron de Volkswagen. Autrement dit, à terme, avec l'abandon des moteurs traditionnels, un tiers des salariés sont menacés et ce n'est pas pour la fin du siècle. Le constructeur allemand l'envisage pour lui-même entre 2030 et 2040. Ce qui a donc été annoncé ce matin n'est qu'une goutte d'eau. En réalité, ces 5 à 7 000 suppressions d'emplois évoquées pour ces 4 prochaines années s'ajoutent aux 21 000 suppressions déjà annoncées dans un plan de restructuration qui court jusqu'à la fin de l'année prochaine. Volkswagen procède donc à des annonces au coup par coup pour ne pas effrayer les syndicats avec qui a été signé un accord de garantie de l'emploi jusqu'en 2025. Ces suppressions de postes se font donc sur des départs à la retraite non remplacés. Des annonces au coup par coup aussi parce que la firme allemande a mis du temps, beaucoup de temps, à se réveiller groggy par le scandale dit du Dieselgate, révélé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Mais désormais, ça y est, la marque de Wolfsburg s'engage résolument dans l'électrique. 30 milliards d'euros investis pour produire pas moins de 70 modèles électriques différents.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Depuis que le milliardaire républicain est entré à la Maison-Blanche, la Californie, qui souhaite bien compter dans la présidentielle de 2020, aura rarement laissé de répit à Donald Trump, le défiant à chaque tournant politique. L'État démocrate, le plus peuplé du pays, ne rate jamais l'occasion de saisir la justice contre les décisions du président concernant par exemple l'immigration, le climat ou bien encore l'avortement. Dernier exemple en date aujourd'hui, le gouverneur de Californie doit signer un moratoire sur la peine de mort. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons qu'il ne s'agit pas d'une abolition de la peine de mort, mais bien d'un moratoire sur les exécutions. Étant entendu, Nadine, que les prisons californiennes constituent aujourd'hui les plus vastes couloirs de la mort aux États-Unis.
Effectivement, malgré son image progressiste, la Californie compte plus de 730 détenus dans les couloirs de la mort. C'est l'un des États américains, avec le Texas, qui applique le régime de l'isolement complet. Les prisonniers restent enfermés 23 heures sur 24. Outre cet extrême confinement et les mauvaises conditions matérielles, les condamnés ne savent pas combien de temps va s'écouler entre leur incarcération et la mort. Aux États-Unis, 40% des condamnés à mort ont passé au moins 20 ans dans les couloirs de la mort à attendre leur exécution, et en moyenne, un prisonnier passe 190 mois avant d'être tué. Donc, le moratoire, ça signifie qu'aucun des 737 locataires à durée indéfinie des couloirs de la mort californiens ne sera exécuté. Ils échappent tous à l'injection létale ou à la chaise électrique. Mais Leur statut de condamné à mort ne change pas, pas plus que leur maintien dans les couloirs de la mort. La décision de Gavin Newsom, nouveau gouverneur de Californie depuis janvier, fait suite à des années de combat des abolitionnistes de l'Ouest américain. Cela fait une dizaine d'années que les anti-peines de mort réclament un moratoire à défaut d'une abolition définitive du châtiment suprême. La Californie, qui n'avait pas procédé à une mise à mort depuis 2006, s'honore aujourd'hui de rejoindre la très forte majorité des États américains qui ont abandonné dans leur législation ou dans la pratique l'application de la peine de mort. Depuis le début de cette année 2019, 3 hommes ont été exécutés aux USA. Il y en a eu 23 en 2018, principalement dans 5-6 États, dont le Texas, la Floride et le Nebraska.
Merci Nadine Epstein. Au Brésil, la police a arrêté hier deux auteurs présumés du crime de Marielle Franco, cette conseillère municipale de gauche, activiste sociale, tuée le 14 mars 2018. Les deux suspects, deux anciens policiers, appartiennent à une milice paramilitaire responsable de nombreux homicides. Par ailleurs, dès hier, une photo sur son profil Facebook montrant l'un des deux militaires arrêtés en compagnie du chef de l'État, Jair Bolsonaro, est devenue virale. Et puis s'agissant cette fois-ci du second suspect, la presse a révélé qu'il habitait dans le même complexe résidentiel que le chef de l'État, où Jair Bolsonaro aurait donc croisé la route des deux assassins présumés de l'élu Marielle Franco. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, tombé en disgrâce, a été condamné ce matin à 6 ans de prison pour agression sexuelle contre deux enfants de cœur. Il risquait jusqu'à 50 ans de réclusion criminelle. Le septuagénaire a fait appel de sa condamnation. Il devient ainsi le plus haut représentant de l'Église catholique jamais reconnu coupable de viol sur mineur. Après une accalmie de quelques jours qui a vu des centaines de civils fuir la guerre, mais aussi des dizaines de djihadistes battre en retraite, l'ultime assaut des forces démocratiques syriennes soutenues par Washington contre le dernier réduit de l'État islamique à Baghouz dans l'est de la Syrie se poursuit. Les jusqu'au-boutistes du califat semblent résister, mais la chute de l'enclave paraît proche. Dans tous les cas, ce que vous avez pu constater, Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture dans la zone.
Écoutez, ici, il y a le service de presse des forces démocratiques syriennes qui encadre les journalistes pour ne pas dire qu'ils les contrôlent. Depuis plusieurs jours déjà, ils nous disent que c'est bientôt la fin, que c'est une question d'heure. On l'a franchement entendu 10 fois ces derniers jours, c'est donc difficile de savoir précisément ce qu'il en est. Maintenant, je me suis perdu dans le désert autour de Baghouz avec un journaliste local à cause d'un problème de voiture et au détour d'une dune, à la nuit tombée, on a rencontré une unité de forces spéciales kurdes par hasard. Elle venait d'arrêter des djihadistes sortis de Baghouz. On a pu parler à un officier des renseignements de cette unité et voilà ce qu'il nous a dit. Selon lui, la bataille de Baghouz et Daesh s'est terminée. Avec ses hommes, ils attendent cette nuit la sortie d'un millier de djihadistes qui se rendent. Il y en aurait encore 700 à l'intérieur. Mais il nous a indiqué que les frappes aériennes allaient reprendre et que ça suffirait pour faire sortir les derniers. Pour lui, dans les 24-48 prochaines heures, il n'y a plus personne à l'intérieur de l'enclave, plus de combattants. Ils se seront rendus ou ils seront morts. Pas morts dans des combats, en réalité il n'y en a pas. Les forces démocratiques kurdes font le siège, c'est hermétique. Morts à cause des frappes aériennes qui font le reste. Des négociations aussi discrètes, secrètes ont eu lieu pour la reddition de ces combattants. Cet officier de renseignement nous a dit aussi qu'après cette étape, il y aura le nettoyage de l'enclave. Les forces démocratiques syriennes vont entrer, enlever les cadavres, combattants mais aussi civils que les médias ne doivent pas voir. Et selon lui, la libération de Baghouz devrait être annoncée dans les 3 ou 4 prochains jours.
Merci Aurélien Colli, envoyé spécial dans l'est de la Syrie. Après l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et le report de la présidentielle, si la question demeure en Algérie de savoir si nous assistons bel et bien à un recul du système ou au contraire à une manœuvre destinée à assurer sa survie, seule certitude, aucune des mesures annoncées lundi ne semble en mesure de calmer aujourd'hui la situation où des milliers d'étudiants ont manifesté hier dans le centre de la capitale. Ce matin encore, un millier d'enseignants et d'élèves protestaient dans le centre-ville. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Omar Belouchet, directeur du quotidien algérien El Watan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Une première question, monsieur Belouchet. Hier, une source gouvernementale assurait que Lakhdar Brahimi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avait été choisi pour présider la conférence chargée de faire des propositions sur l'avenir politique du pays. Même si sa carrière de diplomate chevronné n'est plus à démontrer, cet homme aujourd'hui, âgé de 85 ans et qui ne vit plus en Algérie depuis déjà de nombreuses années, est-il selon vous la meilleure personne pour mener les discussions autour de la transition du pouvoir ?
La question qui se pose, est-ce que les Algériens qui sont dans la rue aujourd'hui, par millions, est-ce qu'ils acceptent la transition? J'en doute. Les Algériens demandent que le président Bouteflika se retire du pouvoir, donc soit par démission, soit par invalidation. C'est un homme malade, diminué physiquement. Et ils souhaitent qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Les Algériens souhaitent que le système politique évolue, que la nature du régime évolue, que la gouvernance change dans notre pays. Or, la lettre du président Bouteflika parle de transition qui serait donc gérée par Monsieur Lakhdar Brahimi. Monsieur Brahimi est un homme très connu sur le plan international. Il a géré des conflits armés. L'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Liban à un certain moment, avec les accords de Taïf en Arabie Saoudite, 82 me semble-t-il. L'Algérie, il n'y a pas de conflit armé en Algérie. Les Algériens demandent à ce que le système change de nature.
C'est le peuple algérien, Omar Bedouchet, qui est dans la rue. Est-ce que l'Algérie n'est pas en train de réapprendre à faire peuple?
Il y a ce qu'on vit...
Qu'est-ce que vous vivez
séquence,
au juste,
nous vivons une séquence, j'allais dire, exceptionnelle. Jusqu'à maintenant, la parole, l'espace public était contrôlé par les pouvoirs publics, par les tenants du pouvoir, je dirais, depuis l'indépendance du pays. La candidature pour un cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika, face à un pays composé à 50% de jeunes, moins de 30 ans, fait qu'il y a une révolte. Les Algériens ont vécu, vivent cette proposition d'un cinquième mandat comme une humiliation pour un pays de jeunes. Et c'est la révolte. Nous vivons un moment de révolte exceptionnel. Le peuple aujourd'hui dit non à ce pouvoir qui est basé sur la corruption, qui est basé sur la prédation, et un pouvoir où on enferme les jeunes, un pouvoir qui est géré par une caste, une gérontocratie. Vous avez parlé de M. Brahimi, qui n'est pas aux affaires, 85 ans. Mais l'ensemble des hauts responsables du pays sont autour de 75, 80, 85%. Les chefs militaires, les chefs civils, etc.
C'est la peur qui est partie.
Je pense, voilà, oui. Absolument. C'est très important de le dire. Les autorités ont développé un élément de langage qui est formidable toutes ces dernières années. Vous avez, l'Algérie a besoin de stabilité. Nous devons continuer. Le processus politique doit se maintenir. Bouteflika a été présenté pour un cinquième mandat pour la continuité, pour la stabilité du pays, au risque de revenir aux années de la décennie noire, c'est-à-dire 100 000 morts, etc., etc. La peur aujourd'hui a disparu. Les gens leur disent, nous ne serons pas la Syrie, nous voulons un nouveau système politique, nous n'avons pas peur de sortir dans la rue et il ne se passera absolument rien, nous n'allons pas revenir en arrière. L'opinion internationale a remarqué que les manifestations sont pacifiques, totalement pacifiques, je dirais même par moments joyeuses, beaucoup de couleurs, avec des mots d'ordre incroyables.
Et un humour redoutable, décapant. Un antivenin décapant, non?
Incroyable, incroyable.
Mais ça, c'est pas une surprise.
Les Algériens sont connus, malgré toutes les images qui sont véhiculées ici et là, mais les Algériens aiment vivre, aiment la vie, aiment rire, etc. Donc la peur a disparu, et aujourd'hui, vous avez en face de l'Europe un peuple de jeunes qui demande à ce que le système politique évolue considérablement et que le régime qui a été battu juste après l'indépendance s'en aille.
Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Bellouchet, la caste au pouvoir. Et c'est vrai que beaucoup interprètent aujourd'hui les annonces de Monsieur Bouteflika comme sa volonté finalement de s'accrocher au pouvoir et de surtout de ne pas confier la transition à d'autres que son cercle finalement de fidèles. Mais le fait qu'aucune personnalité n'émerge aujourd'hui du clan Bouteflika pour assurer donc sa relève ne témoigne-t-il pas d'une forme d'éclatement ou de division au sein du pouvoir?
Il y a une certitude aujourd'hui, c'est que la population souhaite autre chose. On ne sait pas quelle serait la personnalité qui sera produite par ce mouvement, j'oserais dire révolutionnaire, ce mouvement populaire qui aspire à la démocratie, qui aspire à la liberté, qui aspire à la transparence, qui aspire à une autre gouvernance. On ne sait pas quelle serait la personnalité qui va apparaître. Je peux vous citer un certain nombre de noms, mais est-ce que ces personnalités seront cooptées par ce mouvement naissant révolutionnaire?
Il peut venir des étudiants, il peut venir des lycéens, de la jeunesse.
Tout à fait, absolument. Et il pourrait, vendredi, il y aura des millions encore de gens dans les rues, pacifiquement. Parce qu'il y a eu une manœuvre qui a été, ces derniers jours, par le clan présidentiel, maintenir Bouteflika au pouvoir et faire retarder les élections. Les Algériens ne veulent pas de ce schéma. Les Algériens veulent autre chose, veulent une Algérie nouvelle, démocratique, avec des jeunes au pouvoir.
Une dernière question, peut-être rapidement.
Pour poursuivre sur ce que vous disiez, Monsieur Belouchet, en parlant de vous... Vous me disiez il y a quelques minutes de cela que votre tension avait diminué. Vous qui avez milité, vous qui avez travaillé en tant que journaliste contre le quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, comment vivez-vous personnellement ce qui est en train d'éclore là-bas en Algérie?
Avec beaucoup d'enthousiasme, vous l'avez remarqué, beaucoup de l'optimisme également. Le rêve d'un journaliste, c'est d'être lu. Et quel beau rêve nous vivons à l'Ouattane que de voir des millions d'Algériens hier reprendre le titre de la une, la ruse de la dernière ruse de Bouteflika. Absolument, c'est devenu un mot d'ordre qui est chanté, qui est arboré, qui est clamé par des millions d'Algériens. C'est le résultat d'un engagement pour la liberté de la presse dans notre pays. Et nous avons eu raison de nous engager parce qu'aujourd'hui, je pense que mon pays est aux portes d'un avenir démocratique certain.
Et nous terminerons avec ces mots. Merci infiniment Omar Belouchet, directeur, je le rappelle,
c'est
du quotidien algérien Al-Ouattan, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Mathieu Laurent.
Merci à vous.
A-t-il été oublié de la liste ou plus simplement exclu du débat? Seule certitude pour l'heure, le Parti communiste ne figure pas au programme des deux soirées de débats politiques prévues, l'une sur BFM TV et l'autre sur France 2 dans le cadre des élections européennes. Et du coup, eh bien, Yann Brossa, tête de liste du PC pour les prochaines élections européennes, ne décolère pas contre ce qu'il nomme une anomalie démocratique. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, sur quelle base ont été lancées ou pas ces invitations? Le mystère, pour l'instant, reste entier, notamment du côté de France Télévisions. Quoi qu'il en soit, la question qui se pose aujourd'hui, Stéphane, est bien de savoir comment organiser un débat public pluraliste avec un paysage politique totalement éclaté.
Oui. Alors, à cette heure, France Télévisions fait l'autruche et refuse de dire qui est invité et qui ne l'est pas. Mais selon différentes sources, France 2 aurait apparemment prévu de faire s'affronter les têtes de liste des six principales formations politiques le 4 avril prochain, à savoir La République En Marche, le Rassemblement National, Les Républicains, Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise et Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Le choix a semble-t-il été d'inviter tous ceux qui sont crédités de plus de 5% d'intention de vote. Et du coup, exit le Parti communiste crédité de 2% selon différentes enquêtes d'opinion. Le PCF qui n'a pas l'intention de se laisser faire et qui depuis hier soir inonde les réseaux sociaux, en particulier Twitter, de messages et de vidéos accompagnés du hashtag « Passons-nous ». C'est le chef de file des communistes pour les européennes, Yann Brossa, qui a lancé cette offensive en postant une vidéo tournée dans une automobile et qui s'adresse à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.
Bonjour Delphine Ernotte, vous organisez ce débat et vous avez cru qu'il était possible de l'organiser sans le Parti communiste. Je vous rappelle quand même que le Parti communiste, c'est 7000 élus à travers toute la France, c'est plus de 800 maires, c'est deux groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est plusieurs parlementaires.
Ce combat n'est pas nouveau pour le Parti communiste, mais il prend aujourd'hui une autre dimension. Étant donné que le PCF, depuis quelques mois, a totalement changé de stratégie et d'objectif, en évinçant le sénateur Pierre Laurent, remplacé au poste de secrétaire national par le député du Nord, Fabien Roussel, le nouveau patron des communistes refuse désormais toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise et clame haut et fort dans les couloirs de l'Assemblée nationale « PCF is back ». Il y a donc là un enjeu vital, existentiel pour les communistes. Mais ils ne sont pas les seuls à protester. Le chef de file de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, manifeste également son mécontentement. Il craint, lui, que les formations politiques soient scindées par les médias en deux catégories, comme au football. Celle qui évolue en première division, celle qui évolue en seconde division. Avec l'atomisation du paysage politique français et la multiplication des candidatures, on voit bien toute la difficulté à organiser ce type de débat. La question s'était déjà posée lors de la présidentielle en 2017. Finalement, on avait réussi à réunir les 11 candidats sur le même plateau. La difficulté aujourd'hui est sans doute que les élections européennes intéressent beaucoup moins les électeurs potentiels et qu'un débat de plusieurs heures avec un grand nombre de participants semble apparaître pour les organisateurs un peu trop rebutant.
Merci Stéphane Robert. Alors que le marché du livre est en berne, les Français lisent toujours autant et aimeraient même lire davantage, si toutefois ils en avaient le temps. C'est du moins ce que révèle aujourd'hui l'étude biannuelle du Centre National du Livre. Une étude, Cécile de Carvazdois, qui pointe aussi les évolutions aujourd'hui sur le marché du livre.
Oui, le premier constat de la troisième édition de ce baromètre conduit par Ipsos pour le Centre National du Livre, c'est que les Français lisent toujours autant. 92% d'entre eux déclarent avoir lu au moins un livre, un livre au sens large, ces 12 derniers mois. Si les plus grands lecteurs sont toujours des lectrices, diplômées et de plus de 52 ans, ce qui évolue, c'est le type de livre lu, avec une forte progression des mangas, BD, comics, de livres de science-fiction et des livres de développement personnel. Pour ce dernier, ce sont les femmes, les quadragénaires et les CSP moins qu'il faut progresser le genre, alors que les mangas et la science-fiction sont portés par les jeunes. Et ça s'explique évidemment par l'effet Harry Potter, se félicite Vincent Monadet, président du Centre National du Livre, qui salue ce matin les actions de lecture à voix haute à l'école et des 10 minutes de lecture silencieuse. Mais ça n'est pas suffisant, prévient-il encore, parce que ce baromètre montre également combien les séries, Internet et les réseaux sociaux font finalement de l'ombre à la lecture, même si le livre numérique est en très forte progression chez les plus jeunes. L'enjeu serait donc de mettre des livres dans les mains de tous les enfants, dit-il, parce que l'étude montre aussi combien finalement la fracture sociale est là quand il s'agit du livre et de la lecture, d'où l'essor du livre d'occasion d'ailleurs, c'est ce que montre aussi ce baromètre, un essor du livre d'occasion qui inquiète beaucoup le CNL, car le livre d'occasion ne crée pas de valeur, ni pour les auteurs, ni évidemment pour les éditeurs.
Merci Cécile de Kervas-Douai. On termine ce journal avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, marqué par des giboulées, du vent parfois soutenu et un ciel instable, alternant nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles varieront généralement entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Anne-Laure Chouin pour le prochain journal de la rédaction.